Alors, bonjour à chacun. C'est vrai que nous sommes venus, je ne sais plus, c'était ça fait le printemps, hein, en tout cas avant l'été. Disons, c'est vrai que comme l'a dit votre pasteur, je suis un prédicateur itinérant. Je travaille normalement, hein, je travaille, je suis comptable dans une bibliothèque à Genève. Et puis, Dieu m'a amené, je peux le dire comme ça, à partager la parole dans la Suisse romande. J'ai à cœur la Suisse romande, j'aime la Suisse romande, donc Neuchâtel faisant partie de la Suisse romande, je vous aime aussi. J'ai été émerveillé de voir en arrivant ce matin, on est arrivé un peu plus tôt le long de la route du lac, et de voir le lac de Neuchâtel un peu orangé avec les rayons du soleil. Et je me suis dit, ben, vous vivez dans un beau pays. Et je crois que on peut que remercier le Seigneur, comme l'a dit notre sœur. Quand on voit des choses de la nature, on peut dire, ben, oui, Dieu fait bien les choses. On peut que le remercier. Nous allons prier pour que Dieu bénisse sa parole. Je remercie ceux qui m'ont invité avant d'oublier. Je remercie Pierre, Jocelyn, enfin tous ceux qui sont du conseil pour leur invitation. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, devant ta parole. Merci parce que tu es vivant, Seigneur, et nous savons que tu es un Dieu qui parle. Seigneur, un Dieu qui est présent. Et Seigneur, si nous sommes là ce matin devant toi, Seigneur, c'est parce que tu parles, c'est parce que nous sommes en relation avec toi, et c'est parce que tu veux parler, nous parler ce matin et parler à chacun. Oui, Seigneur, comme le dit la parole, elle ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous plonger dans ta parole, te prions que tu nous parles, que tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, que nous ayons des cœurs réceptifs à ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, merci parce que il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent combien tu as agi. Et c'est ce que nous parlerons ce matin. Oui, Seigneur, bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Alors, le message que j'aimerais vous apporter ce matin, je l'ai intitulé Persévère. Alors, vous voyez cette image. Nous allons parler d'un certain homme. Je pense que vous avez déjà deviné lequel, Noé. Et cette arche que vous voyez, qui est vraiment énorme, hein. Si regardez un petit peu la hauteur des gens qui sont près de l'arche. Cette arche a été construite à Williamstown, dans le Kentucky, aux USA. Et cette arche a les mêmes dimensions que l'arche biblique. Alors, pour la petite histoire, cette construction a été fortement critiquée dans la presse, car c'était pour elle une œuvre de chrétiens créationnistes. Alors, qu'est-ce que c'est des chrétiens créationnistes? C'est ceux qui croient que la Terre, que l'univers a été créé par Dieu seul et qui croient par conséquence à l'histoire du déluge. Alors, une question se pose tout de suite, parce qu'elle est importante. Est-ce que le récit de ce déluge, du déluge, est une histoire vraie? Ou est-ce que c'est une histoire qui a été écrite ou même inventée pour spécialement divertir les enfants? Alors, il n'y a pas de milieu, hein. Soit c'est entièrement vrai, ou soit c'est entièrement faux. Et j'aimerais vous apporter en tout cas deux preuves. Pour le déluge, le plus grand problème, c'est de croire que les eaux ont effectivement recouvert toute la surface de la Terre. Alors d'abord, une preuve scientifique indéniable. On a retrouvé des fossiles d'animaux marins sous nos montagnes. Ça existe au Jura, mais même jusqu'aux montagnes du Tibet. Et la question, elle est simple. Comment sont-ils arrivés jusque-là? Et la seule réponse valable, la seule réponse logique, c'est qu'il y a eu un déluge. Ça, c'est 1 plus 1 font 2. La deuxième preuve, elle est biblique. La Bible se prouve par elle-même. On voit que Jésus lui-même y croyait. Matthieu 24, versets 37 et 38, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, versets 37 à 38. Alors pour Jésus, c'est vraiment évident. Le déluge fait partie de l'histoire de l'humanité. Jésus t'invite ce matin à entrer dans cette histoire qui s'est réellement passée. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que Jésus dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. On peut dire rien de mal en soi, c'est la vie normale. Cependant, Jésus dénonce l'essentiel, c'est-à-dire le déni de Dieu. C'est une situation qui ressemble à notre situation aujourd'hui, dans le monde dans lequel que nous vivons. Et l'histoire du déluge, c'est certain, va nous parler ce matin. Alors j'ai partagé ce message en trois parties. D'abord, persévère contre l'indifférence, c'est-à-dire la construction de l'arche. Persévère dans l'Église, Noé dans l'arche. Et persévère lorsque tout s'écroule, la sortie de l'arche. Nous allons lire les passages qui s'y rapportent. Nous allons commencer le premier passage dans Genèse 6, versets 8 à 22. Genèse 6, versets 8 à 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. » Là, nous arrivons au déluge et à l'arche. Dans Genèse 7, verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 16, il y entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Verset 23, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Un dernier passage, Genèse 8, versets 15 à 22, qui est la sortie de l'arche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Qu'il se répande sur la terre, qu'il soit fécond et multiplie sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Premièrement, persévère contre l'indifférence. Alors, il est bien de présenter un peu Noé, parce que Noé vit l'opposé de ses contemporains. Ses contemporains vivent dans la méchanceté. Il est écrit que la méchanceté est répandue sur la terre, et Noé vit vraiment l'opposé. Il est écrit que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et il faut bien souligner qu'il ne trouva pas grâce pour ses bonnes actions, mais c'est seulement par sa foi en Dieu qu'il est justifié. Comme le dit Galates 3, verset 24, justifié par la foi. Noé est justifié par la foi. Et c'est de cette foi personnelle que va découler ses autres qualités. Il est juste et intègre. La seule autre personne dans la Bible qui a les mêmes qualificatifs est Job. Job 1, verset 1. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Noé a tellement ouvert son cœur qu'il est devenu juste et intègre, pas seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Et ça, c'est majestueux, c'est merveilleux de voir ça. Et on voit aussi qu'il marche avec Dieu, exactement comme le seul autre homme mentionné dans la Bible, c'est-à-dire Enoch qui a vécu 300 ans, qui a marché 300 ans avec Dieu. Ça nous est raconté dans Genèse 5, verset 22. Je dois dire que Noé a vraiment besoin de marcher avec Dieu, car par la suite, il fera de véritables exploits. Alors, on arrive à la construction de l'arche. Dieu ordonne à Noé de construire un véritable paquebot. C'est pas une barque, comme on peut peut-être voir sur le lac de Neuchâtel. C'est un paquebot. L'arche commandée par Dieu aura des dimensions colossales. 150 mètres de long, c'est quand même assez énorme. 25 mètres de large et 15 mètres de haut, c'est-à-dire plus haut que la chapelle là où nous sommes. Elle a la capacité, tenez-vous bien, de tenir plus de 520 wagons de chemin de fer. C'est quand même, imaginez-vous un train avec 520 wagons qui se suivent. Ben ça, c'est la capacité de l'arche qui a été construite par Noé. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les professionnels de la marine, c'est que ce bateau a les bonnes proportions pour naviguer. Il faudra attendre vers 1860 pour qu'il y ait un bateau qui soit construit et qui soit plus grand que l'arche de Noé. Noé est embarqué dans un projet, tenez-vous bien, qui va durer des années, pas des mois, mais des années. Et je trouve intéressant ce que Calvin a dit en parlant de Noé. Calvin dit « La taille prodigieuse de l'arche aurait pu accabler ses émotions pour l'empêcher de lever même un doigt pour commencer le travail, que le lecteur considère le nombre d'arbres qu'il a dû couper, tailler, transporter et emboîter ensemble. Il l'a fait à cause d'une promesse de Dieu. » Il faudra vraiment une véritable forêt ou même plusieurs forêts pour construire cette arche. Hébreux 11, verset 7 nous dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Et là, on voit, c'est uniquement par la foi que que Noé est sauvé, lui et sa famille, et c'est aussi par la foi qu'il accomplit tout ce travail, cela pendant des années. 2 Pierre 2, verset 5 nous dit que Pierre, c'est Pierre qui parle, qui dit que Noé était un prédicateur de justice. Ce qui veut dire que pendant qu'il construisait l'arche, Noé leur annonçait également qu'ils devaient revenir à Dieu, sinon qu'ils allaient périr. Jonas aura le même message vis-à-vis des gens de Ninive. Dans Jonas 3, verset 4, et Jonas criait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Et Noé va avoir le même message, à part ceux de sa famille, mais il va avoir le même message pour tout le monde entier qui l'entoure. Alors c'est clair qu'une foule devait venir voir cet homme qui construisait ce bateau. Peut-être, imagine-toi, un instant, tu remontes dans le temps, puis tu fais partie de cette foule, et puis tu vois cet homme qui s'appelle Noé, puis tu t'approches de lui, puis tu vois que son bateau se construit petit à petit, et puis Noé est en train de scier du bois, il est en train de travailler son bois, et puis t'annonce là une chose qui te paraît complètement folle, il t'annonce là qu'il va pleuvoir tellement que même le sol où tu es va être recouvert d'eau et que tu vas périr. Et il t'annonce que tu vas périr si tu ne reviens pas à l'Éternel. Jusqu'à présent, le monde dont tu fais partie a vécu un peu comme dans une serre où il y a assez d'humidité pour que toute la vie puisse être donnée. Et la seule chose que tu peux répondre à Noé, et puis c'est une chose qui est sensée, qui n'est pas insensée, tu peux lui dire, mais écoute, Noé, tu te trompes complètement. Il n'a jamais plu. Il n'a jamais plu ici. D'ailleurs, d'où vient ce verbe pleuvoir que tu inventes? Imagine un instant toutes les moqueries que Noé a dû entendre. Et cela pas pendant juste un ou deux jours, mais pendant des années. Et pendant ce temps, Noé annoncera toujours le même message. Revenez à Dieu, revenez à Dieu. Il persévérera dans la construction de l'arche et il persévérera dans l'annonce de la parole et c'est ce qui le sauvera. Il vivra un verset qui a été écrit bien plus tard dans 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et là, Noé, en annonçant la parole, il se sauve lui-même. Le résultat pour Noé, zéro. Personne ne l'écoutera. Terrible. J'aimerais te dire ce matin, veille sur toi-même et annonce la parole de Dieu. Je crois que c'est important. Sors de ton confort, car le monde qui t'entoure, ceux que tu connais, qui ne connaissent pas Dieu, va à sa perte. Ce monde va à sa perte. Jésus lui-même se rendait compte que le temps était compté. Il dit dans Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Alors j'aimerais te dire, annonce l'Évangile, persévère dans l'annonce de l'Évangile, mais le résultat appartient à Dieu. Ce n'est pas toi qui convertis des gens, c'est des gens qui viennent à Jésus-Christ, qui sont sauvés par Jésus-Christ. Profite de chaque occasion, car les temps approchent où cela ne sera plus possible, où la nuit viendra. Et je pense qu'on arrive gentiment dans ces temps. Ça, c'est mon opinion personnelle. Deuxièmement, persévère dans l'Église. Entre dans l'Église avec un grand E. Il n'entre que dans l'arche que ceux qui ont été admis par Dieu, c'est-à-dire Noé et cette personne, plus les animaux qui ont été conduits par lui. Alors, il faut regarder une petite phrase qui est importante. Ce n'est pas Noé qui referme la porte de l'arche. Il est écrit « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui ». L'Éternel lui-même va se déplacer et fermer la porte. Ça, je trouve ça merveilleux. Une autre phrase qui est importante que l'on trouve au chapitre 6, verset 14. La porte et l'arche tout entière sont étanches, et cela suite à un ordre de Dieu. Tu l'enduiras de poids en dedans et au dehors. Et cette phrase est importante car elle peut être interprétée de deux façons. Car le verbe « enduire » est le plus souvent traduit dans l'Ancien Testament par « couvrir » ou « expier ». De même que le mot « poids » peut être traduit aussi par « rançon ». Alors, si bien que cette phrase aurait très bien pu être traduite ainsi, « Tu l'expieras avec une rançon en dedans et au dehors ». Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Christ est déjà annoncé ici. Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu un peu plus loin pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Christ a payé la rançon. Il est mort à ta place, afin que tes péchés soient couverts au regard de Dieu. Et ça, je trouve que ça, c'est merveilleux. Et j'aimerais te dire que ce matin, si tu n'es pas sûr, entièrement sûr d'être sauvé, j'aimerais te dire que tu es obligé de passer par cette porte. Dans Actes 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Et là, il est bien entendu parlé de Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et j'aimerais te dire, ben, Jésus peut te sauver ce matin. Tu peux venir à lui, tu peux lui dire, ben, écoute, Seigneur, j'aimerais être sauvé. J'aimerais passer de la mort éternelle à la vie éternelle. J'aimerais te rencontrer personnellement ce matin. Et pour cela, ben, je t'apporte mes péchés, mes fautes qui me séparent de Dieu. Je te demande pardon et je te prie que tu entres dans ma vie. Oui, je veux passer par cette porte parce que je veux avoir la vie éternelle. Et je peux te dire qu'il le fera ce matin même. Ne tarde pas, ne tarde pas. L'arche est aussi une image de l'Église. Noé et son monde ne resteront pas seulement 40 jours dans l'arche, ils y resteront finalement une année entière. Alors, si quelqu'un veut savoir tous les versets pour savoir exactement comment on arrive à une année, je peux vous les dire après le culte. C'est une série de versets, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on peut dire que Noé a eu une année de travail. Alors, imaginez le travail. D'abord, les différents menus pour chaque espèce. Chacun ne mange pas la même chose. Mettre de l'ordre entre eux, il y avait du travail. Et puis le nettoyage. J'ai été encouragé, enfin j'ai vu, je ne sais plus quel frère, qui était là un peu plus tôt le matin, puis qui nettoyait le portail de l'entrée. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu quelqu'un, puis je lui ai dit, ah ben voilà, c'est le frère qui est là. Et puis je lui ai dit, ah ouais, ben voilà, ça fait partie de l'Église. Pour Noé, ça va être un travail qui va être quasiment sur 24 heures sur 24, mais certainement 7 jours sur 7 et pendant une année. À bien des égards, ce qui se passe dans l'arche représente ce qui se passe dans une église même comme Neuchâtel. Et en premier lieu, ce qui frappe, c'est la diversité. L'église est composée de personnes avec des aptitudes différentes. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. La bonne nouvelle avec l'évangile, c'est que l'évangile est l'ouverture pour que tu puisses exercer tes talents. Et la parole des talents que l'on trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30, donne un précieux enseignement, surtout avec celui qui a reçu qu'un seul talent et qui, pour finir, ne fera rien. Dans le même sens, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, versets 12 à 14, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. J'ai trouvé 4 obstacles pour qu'un talent ne soit pas exercé. D'abord, le premier obstacle, c'est le mépris. Dans le cas de Timothée, c'est sa jeunesse, mais je crois que le mépris peut être à tout niveau. Par exemple, de dire, ben, celui-ci ou celle-ci n'est pas de mon rang. Je m'excuse, mais il ne peut pas faire ça. Il n'est pas aussi de ma famille, parce que des fois ça arrive. En tout cas, à Genève, ça arrive. Mais peut-être pas à Neuchâtel, mais des fois ça arrive. On dit, mais celui-ci, ben, il est en dessous de mon quota. Et ça, c'est le mépris. Le deuxième point, c'est le péché. Paul dit, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. J'aimerais t'encourager, veille sur toi-même, afin que le diable ne vole pas ton talent et qu'il ne t'empêche d'une manière ou d'une autre de servir le maître. Ne laisse pas régner en sous-sol des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et pour cela, prie avec un frère ou une sœur de confiance. Le troisième point, c'est la négligence de ton don. Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi. refuse de croire que tes capacités, tes qualités sont normales ou ordinaires. Et je me rappelle, il y a déjà quelque temps, nous avons visité un couple qui était dans une autre ville que la nôtre. Et puis, on a chanté. Le but, c'était de faire une sorte de petite cellule. Puis, on a chanté. Puis, l'épouse de celui qui nous recevait chantait vraiment bien. Une belle voix, une voix qui était juste, etc. Puis, on lui a dit, mais écoute, tu devrais te mettre dans la chorale. Alors, elle avait peur. Elle a dit, moi, je me vois mal devant une chorale, devant tout le monde. Mais je crois que quand tu as reçu un don, c'est pour l'exercer. C'est simplement pour l'exercer, pour le service du Seigneur. Et si tu reçois un vrai compliment sur une chose que tu sais bien faire, je ne parle pas de la flatterie, je parle d'un vrai compliment, mais il ne t'est pas interdit de te poser cette question, mais est-ce que ce ne serait pas mon don? Est-ce que je ne pourrais pas exercer cela au service de l'Église? Et je crois que c'est important parce que je crois que chacun ici, et je pourrais vous nommer chaque prénom qu'il y a ici, chacun a un don qu'il a reçu ou plusieurs dons qu'il a reçus de la part du Seigneur. Ça, c'est indéniable. Et tu es appelé à accomplir, à mettre tes talents, tes dons au service du Maître. Le dernier point, c'est la mauvaise connaissance de Dieu. Et on le voit avec celui qui a reçu qu'un seul talent et qui ne fait rien. Il n'a pas compris l'essentiel. Il n'a pas compris que Dieu est bon et qu'il le restera toujours. Et j'aime bien ce passage dans Exode 34, versets 6 et 7. Et j'aime bien parce que c'est un passage de l'Ancien Testament. Et je trouve que ça montre déjà l'évangile qui va être annoncé par Jésus-Christ. L'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Merveilleux. Et ça, c'est la vérité. Et si tu te rends compte que tu perçois Dieu pas entièrement bon, viens vers lui. Viens vers lui ce matin et lui dis, Seigneur, j'aimerais que tu me rafraîchisses. J'aimerais que tu me changes à ce niveau-là, que tu me rafraîchisses et que tu me relèves de cette fausse conception que j'ai de toi. Persévère dans les dons que tu as reçus et même encourage celui ou celle qui est à côté de toi. Et là, on voit que Paul avait bien compris cette chose et il dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Le dernier point, persévère quand tout s'écroule. Alors on arrive à la sortie de l'arche. Imaginez un instant ce qui se passe lorsque la porte s'ouvre. Les animaux, ils sont contents de partir, ils sont restés une année dedans. Ils sont contents de gambader, de partir en courant. Et après, Noé arrive sur le seuil de la porte. Puis la seule chose qu'il peut constater, c'est que le paysage est complètement ravagé. Peut-être reste-t-il, ça on peut l'imaginer, ce n'est pas écrit dans le texte, reste-t-il quelques restes de cadavres, mais tout est dévasté. Il n'y a plus rien. Fini. Le silence est également présent. On n'entend aucune voix, à part ceux de sa famille. Tous les gens que Noé connaissait ne sont plus. Le maraîcher, par exemple, qui apportait des légumes à Noé, n'est plus là. La boulangère, ses voisins, ses amis, ceux qui ont grandi avec lui, parce que Noé a eu une enfance aussi, tous ceux-là ne sont plus. Aucun est là, ils sont tous morts, noyés. terrible. Noé a certainement subi un véritable traumatisme et tous ses souvenirs, tout son monde a disparu. Alors Noé va faire la seule chose qui a du sens pour lui. Et il est écrit dans Genèse 8, verset 20, « Noé bâtit un autel à l'Éternel ». Et on voit Noé qui se tourne vers Dieu de tout son cœur. Et cela pour lui rendre toute sa reconnaissance. Il ressemble à Job qui est intègre et juste comme lui et qui dit dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alors tu me diras, oui, ben ça c'est du passé, hein, ça s'est passé, on ne sait pas combien de millénaires avant nous, c'est du passé. J'ai vu il y a déjà quelque temps un reportage où on voyait une dame qui était sur un bateau avec un reporter et qui était sur l'océan donc. Et cette dame disait, ben, écoutez, il y avait le micro devant elle et puis cette dame racontait, ben, elle dit, écoutez, en dessous, là, il y avait mon île. L'eau est montée et de toute ma vie, de toute ma jeunesse, de ma maison, de mes souvenirs, de tout ce que j'ai vu en étant jeune, rien n'existe. Maintenant, c'est recouvert d'eau. On voyait que l'océan. Et c'était terrible pour cette femme, donc ça peut encore arriver aujourd'hui. Et peut-être c'est quelque chose que tu vis, peut-être différemment. Peut-être jusqu'à un certain point, ta vie s'est déroulée, comme on dit, comme un fleuve tranquille, jusqu'à un certain moment où il y a eu un séisme, peut-être même des séismes, et des séismes dont toi seul peux mettre le nom dessus. Tu te dis, ben, jusque-là, ça a bien été, puis il s'est passé ça. Et peut-être même le mot que tu sais, ça te fait mal. Et tu te poses cette question, mais qu'est-ce que je peux faire devant ça? Qu'est-ce que je peux faire devant ça? Parce que j'y pense encore. C'est encore présent comme si c'était hier que je l'avais vécu. Que faire devant ça? Que faire devant ce brisement? Il n'y a qu'une seule solution. Fais comme Noé, construis un autel et adore ton Dieu. C'est la seule solution. Dépose tes pourquoi devant Dieu. Dis-lui avec sincérité, ben, tu ne comprends pas tout. Dépose tes armes et puis dis à Dieu la même chose que Job. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, je pense, c'est une prière qui vient du cœur. Reconnais la toute-puissance que Dieu a en réserve pour toi. Persévère dans ton adoration devant Dieu et tu vivras pleinement ce verset que l'on trouve dans le psaume 110, verset 7. Il ou elle boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il ou elle relève la tête. En conclusion, Noé a persévéré malgré un manquement. On sait, il a été ivre un temps, un moment. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a donné un nouveau départ. Il lui a donné des saisons qu'il ne connaissait pas auparavant. Il lui a donné aussi un arc-en-ciel montrant son alliance entre lui et Dieu et les hommes. Noé, en persévérant, a obtenu la grâce de Dieu. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. J'aimerais te dire que tu es appelé ce matin à persévérer comme Noé. Persévérer dans l'annonce de sa parole. Annonce la parole autour de toi. Persévère dans l'annonce de la parole. Persévère dans les dons, dans les talents que tu as reçus. Ne les laisse pas de côté et encourage ceux qui sont à tes côtés à utiliser, à faire leurs dons. Persévère également dans l'adoration de ton Dieu. Prends du temps avec Dieu et adore-le. Adore-le, mais Dieu en premier dans ta vie. Je t'invite vraiment ce matin à t'approcher du Dieu de la grâce. Parce que le Dieu, c'est le Dieu de la grâce pour toi et pour moi. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci parce que cette histoire de Noé est merveilleuse. Seigneur, cet homme, même s'il a vécu beaucoup plus d'années que nous, Seigneur, a persévéré par la foi, Seigneur, persévéré dans la construction de l'arche, persévéré même dans l'arche, et persévéré quand il a vu toute la terre anéantie. Oui, Seigneur, il s'est accroché à toi, et Seigneur, c'est un exemple pour nous aujourd'hui, Seigneur, de nous accrocher à toi, Seigneur, et de nous-mêmes persévérer à notre niveau, comme tu veux que l'on persévère, Seigneur, dans ce que nous avons reçu, Seigneur, que nous puissions persévérer dans le salut que nous avons reçu et le transmettre à d'autres, persévérer dans les dons, les talents que nous avons reçus, et faire que ton évangile soit glorifié ainsi, et persévérer en t'adorant. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer en vérité, Seigneur. Être devant toi et être des adorateurs en vérité. Merci parce que tu relèves, tu restaures les cœurs, tu rafraîchis les cœurs encore aujourd'hui, encore ce matin. Au nom de Jésus, Amen.